Vous écoutez RTL.
RTL, il est 9h.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
L'écrivain Éric Vuillard a décroché le Graal hier en recevant le Goncourt 2017. On revit cette remise de prix dans un instant avec Bernard Lehu à la télévision ce soir. Sur France 3, 21h, La Consolation, le téléfilm adapté de l'autobiographie de Flavie Flamand, dans laquelle l'animatrice révélait avoir été victime d'un viol. Ce sera le choix d'Isabelle Morini-Bosque. Nous découvrirons avec Steven Bellery le deuxième album des sœurs jumelles IBI. Elles sont françaises et elles ont la cote. La chanteuse Adèle les adore et parle d'un disque sensationnel. Nous prendrons connaissance de nos express du jour grâce à Olivia Leray. Et puis nous écouterons le pianiste d'origine turque Fazil Say. Il consacre son dernier album aux Nocturnes de Chopin.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Bernard Lehu, le prix Goncourt a donc été attribué hier à l'ordre du jour d'Éric Vuillard.
Oui, alors un Goncourt poids léger par le nombre de pages, 160, mais poids lourd par sa qualité d'écriture et son sujet, l'arrivée au pouvoir d'Hitler avec la complicité sonnante et trébuchante des 24 plus grands industriels et banquiers allemands, complicité scellée à l'issue d'une rencontre le 20 février 1933, Éric Vuillard.
Oui, c'est une date à la fois importante et en un certain sens, et c'est ce qu'elle a de terrible, ordinaire. C'est-à-dire, finalement, le fait que les grands chefs d'entreprise ou les argentiers côtoient les hommes politiques de tous bords ou les dictateurs, ça n'est pas une nouveauté en soi. Là, évidemment, l'importance que revêt cette fin d'après-midi donc du 20 février 33, c'est que Hitler vient d'arriver au pouvoir et le parti nazi a des finances qui sont exsangues. Et en très peu de temps, enfin en une heure en gros, ou entre Göring et Hitler qui interviennent devant 24 des plus grands industriels allemands, le financement va être assuré à hauteur de 3 millions de Reichsmark.
Bernard Pivot, président de l'Académie Goncourt, n'était pas avare de compliments hier sur le livre d'Éric Vuillard.
Et ce qui est formidable dans ce livre, c'est d'abord l'écriture. C'est une leçon de littérature par son écriture et c'est une leçon de morale politique par le récit qu'il fait du nazisme. C'est-à-dire qu'il montre qu'un groupe d'hommes, pas très nombreux, mais par l'intimidation, par comptant sur la veulerie des autres, par le bluff, par la brutalité, arrive à circonvenir un pays et à déclencher, quelques années après, la catastrophe mondiale.
Et alors, raconter la grande histoire par des détails, mais au retentissement capital, eh bien, c'est justement tout l'art d'Éric Vuillard, un art qui a bluffé Virginie Despentes, membre du jury.
C'est un livre qui m'a énormément accompagné. Celui-ci m'a profondément transformé ma vision de comment les grandes décisions se prennent, quelle aurait pu être l'attitude différente des dirigeants à ce moment-là, et qu'en fait, c'est vrai que ça tient à une guerre ou pas une guerre, finalement, ça tient à une accumulation de petites scènes, et l'enchaînement de petites rencontres en petites rencontres, et donc de petites décisions qui ne sont pas les bonnes. Quoi. J'ai l'impression d'avoir pris conscience de façon plus aiguë.
Alors, les mauvaises langues souligneront peut-être que l'ordre... Vous en êtes une, Yves, non?
Oui.
Que l'ordre du jour est publié.
Oh oui, on va pas faire semblant, ce n'est pas du tout dans nos pronostics.
Oui,
hein, non. N'ayons pas faux cul.
Et l'ordre du jour, donc, est publié par Actes Sud, la maison d'édition que dirigeait Françoise Nyssen, ministre de la Culture, avant d'entrer au ministère. Alors, les Goncourt auraient-ils fait une fleur à la ministre? Pierre Assouline, autre membre du jury, balaie le soupçon.
Non. Je vais être très impoli. À l'Académie Goncourt, on se fiche complètement du ministre de la Culture. Ça n'a strictement aucune importance. Premièrement, la deuxième chose, c'est que Actes Sud a eu des auteurs récompensés il y a 2-3 ans.
Mathias Sénard, par exemple.
Mathias Sénard, et avant lui, Jérôme Ferrari. Et il n'était pas ministre, l'éditeur, à ce moment-là. Donc, franchement, ça ne change rien.
Et l'ordre du jour d'Éric Vuillard fait, quoi qu'il en soit, un bon Goncourt. Ajoutons que le Renaudot lui a été attribué à la disparition de Joseph Mengele d'Olivier Guez, de thématique décidément nazisme, hier chez Drouan. Bernard Lehu.
Les Express LVT.
Des Express préparés, bien entendu, par Olivia Leray. Bonjour, Olivia.
Bonjour.
On consulte tout de suite le palmarès hebdomadaire des meilleures ventes de livres avec le magazine L'Express et RTL.
Alors, du côté des romans, Origine de Dan Brown reste numéro 1, mais la performance est réalisée par Patrick Modiano, dont le nouveau livre, Souvenir dormant, se hisse à la deuxième place dès sa semaine de sortie.
Chouette.
On l'a trouvé plutôt joli, le dernier thriller de Michel Bussy complète ce trio de tête. Dans la catégorie essais et documents, à noter le retour à la première place de La vie secrète des arbres. Isabelle
super.
Va être contente. De Peter Wohlleben, un vrai phénomène puisque le livre en est à sa 35e semaine de présence.
Samedi.
Ça tombe bien, comme ça vous pourrez le brûler, ça vous dans la cheminée, ça met longtemps. Alors, palmarès complet à retrouver dès demain dans L'Express. Isabelle Carré sera bientôt en librairie.
Oui, la comédienne signe son premier roman, Les Rêveurs, un livre aux accents autobiographiques, en tout cas fortement inspiré par son enfance. Elle y décrit une famille hors norme dans la bohème des années 70. Les Rêveurs paraîtra le 10 janvier prochain aux éditions Grasset.
Aux États-Unis, les suites du scandale Kevin Spacey, Netflix envisage de tuer son personnage dans la série House of Cards.
Le comédien qui est empêtré dans un scandale sexuel et qui a été renvoyé par Netflix, et son personnage, effectivement, l'ex-président Frank Underwood, devrait mourir au début du troisième épisode de la saison. La suite de l'intrigue pourrait se concentrer sur son épouse Claire Underwood, elle-même devenue présidente. Oui. Une série dérivée serait par ailleurs développée sur ce personnage incarné depuis le début par Robin Wright.
Des nouvelles de Johnny Hallyday ce matin.
Trois semaines après avoir pris la parole sur RTL, son manager Sébastien Faron s'est à nouveau exprimé sur l'état de santé de Johnny. C'était hier après-midi lors de la présentation d'On a tous quelque chose de Johnny, un album de reprise qui sort la semaine prochaine. Sébastien Faron balaye les diverses rumeurs.
Aujourd'hui, il va bien. Il a un cancer du poumon, on le sait tous, donc évidemment, il se soigne. Il n'y a pas péril en la demeure, il va bien. Il se bat, il est là. Et il sera prochainement là pour vous le montrer, à mon avis. Facile. Le prochain album est en enregistrement.
C'était les Express de Laissez-vous tenter.
RTL Matin.
Laissez-vous tenter.
Avec Yves Calvi.
Alors, pouvons-nous commencer tout cela, notre rubrique télé, avec nos audiences télévisées de la veille, avec Médiamétrie?
Ce qui était très attendu, Yves, c'était l'audience de mention particulière, le téléfilm avec la jeune trisomique 21 sur Laura sur TF1. Eh bien, 5 800 000 téléspectateurs, c'est un succès, avec près de 25% du public sur la une. Broadchurch, dans l'indifférence médiatique générale, poursuit une très belle troisième saison, 4 360 000 téléspectateurs et près de 18% du public télé sur la 2. Et alors, Marié au premier regard, qui pour le coup n'a pas été du tout médiatisé cette fois, 1 900 000 téléspectateurs et 8% du public sur M6, j'en étais. Et alors, les téléfilms de Noël, dites-moi donc. Près de 2 millions de téléspectateurs sur TF1 et près de 800 000 sur M6. J'en connais plein qui y sont, sont devant.
Évidemment. Ma grand-mère.
On adore tout ça, quelles que soient les générations. Et je salue votre grand-maman par la même occasion, Steven. Alors, vous nous signalez ce soir sur la 2 un cache investigation consacrée aux Paradise Papers, le nouveau scandale mondial. Mais l'événement, c'est évidemment sur la 3, le téléfilm La Consolation, qui revient sur le viol dont a été victime Flavie Flament à l'âge de 13 ans.
Oui, c'est une fiction intelligemment construite, sacrée meilleur téléfilm au Festival de La Rochelle. Tout commence par le quotidien sur un plateau télé de l'animatrice Flavie Flament, incarnée adulte par Émilie Dequesne. Une Flavie qui a des crises de panique, des angoisses, des vertiges, d'où analyse finalement chez un psy. Il lui explique qu'en cas de traumatisme violent subi par un être, son cerveau lui cache le drame qu'il a provoqué. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Or, un jour, devant lui, devant ce médecin, un Polaroid tombe de son album photo. C'est elle, à 13 ans.
Vous m'écoutez plus.
Il m'a violée.
De qui parlez-vous ?
Elle parle du célèbre photographe David Hamilton. Flavie, alors 26 ans, se réveille surprise de susciter l'intérêt de la 26 ans plus tard, pardon, se réveille surprise de susciter l'intérêt de la réalisatrice Magali Richard Serrano, avec qui elle va étroitement collaborer pour l'adaptation de son livre. Et comme elle le dit au micro de Laurent Marsic, elle n'en revient toujours pas.
La première fois que j'ai vu le film, j'ai accusé le coup. Quand on voit sa propre histoire qui se déroule sous ses yeux, c'est quelque chose de très intime et quand on le voit porté à l'écran, c'est extrêmement troublant. Mais ça a été fait avec une telle délicatesse, une telle magie, une telle poésie que finalement, je regardais l'histoire de Poupette presque d'une façon dissociée. Ce qui n'est pas plus mal pour mon équilibre mental. Non mais je plaisante, mais c'est vrai que de voir cette petite fille que j'ai été à l'écran se battre pour survivre à un drame, c'est quelque chose d'extrêmement troublant. Mais en même temps, c'est encore une étape sur un chemin pas terminé et dans un combat qui n'est pas terminé non plus, parce que derrière tout ça, derrière le livre, derrière le film, il y a une question dont on doit s'emparer sur la protection des enfants, sur les délais de prescription, sur les crimes sexuels sur mineurs. Donc c'est beau de faire des belles choses pour une belle cause.
Alors j'ai demandé à la formidable patronne de la fiction de France 3, Anne Holmes, si c'était un avantage ou un handicap que La Consolation soit diffusée au moment où la parole des femmes se libère tellement qu'il y a un risque de grand déversoir.
Je sais pas, c'est en fait
un hasard, un malheureux hasard. Mais si ce film peut continuer à faire libérer la parole des femmes qui ont vécu ça, ça sera bien. Il y a un débat derrière sur la libération de la parole, sur les choses qu'on enfouit, comment on peut les sortir, quel impact ça a, quel que soit le drame d'ailleurs qu'on a vécu. Hein. Mais il y a une cause à défendre derrière ce film, c'est aussi le délai de prescription. Elle a fait même un documentaire là-dessus sur France 5. Là, on traite vraiment de la libération de la parole et du délai de prescription. Et ça, c'est important quand même.
Oui, ce documentaire, ce sera le 15 novembre.
Alors, donc je résume. Pour vous, c'est un téléfilm réussi ?
Oui, au début. J'ai eu un peu de mal, franchement, à retrouver Flavie en Émilie de Ken, mais effectivement, c'est réussi. Le fait de revisiter son enfance avec le psy permet de revoir et revivre son adolescence, celle d'une Flavie en pré-éclosion. Et ça permet de découvrir une famille de Français moyens qui va au camping l'été, qui fait des réunions, qui se dispute, qui rit, etc. Ça permet de découvrir la délicieuse Lou Gable dans le rôle de Flavie jeune. Et surtout, ça permet de retrouver Léa Drucker, prodigieuse en mère, abusive, intrusive, manipulatrice, vivant par procuration à travers sa fille. Elle la pousse dans ses retranchements et dans le lit d'un producteur. Elle tire les ficelles. Au départ, par exemple, c'est infinitésimal, mais c'est intéressant. Elle exige que Flavie prenne certes de la poitrine, mais sans prendre du poids, d'où l'achat d'une balance.
Alors, comment tu la trouves ?
Je l'ai acheté rien que pour toi.
On dirait une soucoupe volante.
C'est de la technologie de pointe, ça, Flavie. Ça calcule ton poids au gramme près. Monte.
48 kilos et 600 grammes. Qu'est-ce que je disais ?
On va se donner un objectif.
On se dit quoi ?
46.
47.
T'es incroyable, toi. Tu fais tout à moitié. C'est pas comme ça, la vie, ma petite fille. C'est pas comme ça que tu vas y arriver, crois-moi. Un effort à faire et puis plus, y a plus personne. Tu sais quoi, Flavie, fais comme tu veux. Moi, je te dis que ton poids de forme, c'est 46 kilos. Maintenant, si t'es pas d'accord...
Okay, bah, c'est bon, 46.
Voilà. Elle a compris. Oh, toi, je te jure, hein.
Et en conclusion, quand sa mère découvre, quelques instants après, que sa fille mange en cachette et a pris quelques grammes, elle se venge immédiatement.
Je suis prête.
Est-ce que tu crois que je vais t'emmener à Kodak avec moi ?
Bah oui.
Bah non. Ça t'aidera peut-être à réfléchir.
Mais j'ai réfléchi, maman. Je vais faire plus attention, s'il te plaît.
Non, Flavie. T'es grosse, t'es moche. Tu finiras caissière, de toute façon. J'ai honte de me trimballer un boudin comme toi. T'as qu'à rester dans ta chambre, c'est là que tu seras le mieux.
Voilà. C'est donc à 21h, c'est sur France 3, ça s'appelle La Consolation.
Dans quelques instants, non, et même tout de suite d'ailleurs, la musique maintenant. Avec un coup de cœur ce matin pour le duo IBI, les jumelles françaises viennent de publier H, leur deuxième album. Steven Bellery, bonjour.
Bonjour à tous.
C'est l'un des disques qui vous a le plus épaté en ce début d'année.
Ouais, leur premier opus paru il y a 2 ans m'avait enthousiasmé, ce volume 2 m'a époustouflé. C'est un grand disque vertigineux, viscéral, polyphonique, polysonique pourrait-on même dire. Cette collection de 12 titres est un voyage musical. C'est un album qui vous happe, qui vous empêche de faire autre chose que de l'écouter. C'est dense tout en étant aérien. Autre extrait, Deathless. Left for dead in the streets. Whatever happens, whatever happened. Oh hey, we are deathless. We are deathless. C'est Lisa, voix principale, et Naomi Diaz, plus musicienne, des jumelles de 22 ans qui ne se ressemblent pas du tout d'ailleurs. Leur mère est d'origine vénézuélienne, leur père, Anga Diaz, célèbre percussionniste cubain, leur a légué l'amour du rythme. Au lendemain de son décès brutal en 2006, les fillettes, alors âgées de 11 ans, ont débuté la musique. IBI, mode d'emploi, écoutez Naomi puis Lisa.
C'est vrai qu'on a un peu nos rôles sans le vouloir. Et bon, ça, c'est nos caractères et comment on est qui font que, voilà, on a chacune nos rôles. Moi, je suis plus le rythme, plus la production, Lisa est plus la mélodie et la composition. Donc ça n'a jamais changé. On va dire que Lisa commence, moi, je termine. Je suis là, je suis toujours à côté, mais je la laisse. On travaille toujours ensemble, on cherche ensemble. Mais voilà, chacune a un peu son rôle.
Et donc l'harmonie, que ce soit l'harmonie musicale qu'on utilise énormément dans l'album et dans le premier aussi, qui fait partie de l'identité de notre groupe, ou que ce soit être en harmonie sur le sujet ou sur l'énergie qu'on a envie de donner dans l'album, tout ça c'est primordial.
Moi, si j'aime pas une chanson, Alisa le sait tout de suite et donc on la fait pas.
Like you.
Le duo IBI mélange absolument tout dans leur musique, hein, Steve.
Ouais, leur créativité n'a ni frontières ni limites. IBI, c'est le mélange, le brassage de sons, de voix, de samples. Elles prennent d'ailleurs, par exemple, des petits bouts d'un discours de Michelle Obama. Mais il y a aussi des instrumentistes invités et ça mélange même les langues. IBI, ça veut dire jumelle en Yoruba, une langue parlée en Afrique de l'Ouest que Lisa et Naomi utilisent dans quelques morceaux, tout comme l'anglais ou l'espagnol, pas encore le français, elles essaient. Cette multitude de sonorités forme un tout harmonique, une fusion musicale. Lisa Diaz.
Aussi, le mot fusion est merveilleux parce que pour moi, ça veut dire qu'on a réussi le challenge qui est qu'on voulait que les featurings ne s'entendent presque pas. Non, on avait envie que ça fasse tellement partie de la chanson, pareil pour les samples de voix, que ça fasse tellement partie de la chanson que ça soit en fusion. Et en plus, c'est très organique et naturel. On l'a jamais vu comme quelque chose de compliqué. Il y a beaucoup de gens qui nous ont dit « Ouh là là, vous êtes aventureuse, vous avez mélangé le Yoruba, personne comprend, et l'anglais quand même, c'est dingue et tout. » Et en fait, nous, on l'a vu comme quelque chose de très organique. On écoute de la musique anglaise et américaine depuis qu'on est petite, même avant qu'on comprenne l'anglais. Et pourtant, on sentait les chansons, on les sent. La langue est quelque chose de très important, mais en même temps, il y a quelque chose qui va au-delà de la langue.
Ça, c'est du Yoruba. Chez IBI, la voix est un instrument, l'énergie animale. Lisa et Naomi le confient volontiers, la musique a exacerbé leur gémellité.
Je dis souvent, c'est comme si on était deux pôles totalement opposés qui s'attirent, et c'est ça IBI. IBI, c'est le juste milieu. Et bon, ça peut être un tout petit peu plus vers Naomi, un tout petit peu plus vers moi, mais c'est quand même ce milieu-là qui fait IBI.
Et c'est la première fois dans nos vies qu'on nous appelle les jumelles. Parce qu'on est jumelles, mais depuis qu'on est petites, c'est toujours Lisa et Naomi.
Mais disons qu'en fait, moi j'ai l'impression qu'on s'est rencontrés vraiment pour de vrai, grâce à la musique. Et on s'est apportés à l'une et à l'autre pour de vrai, grâce à la musique. Et c'est une manière de communication simple. Toutes les autres manières de communication entre nous sont assez compliquées et tumultueuses, mais celle-là, elle est simple et elle est fluide. Et je crois que c'est pour ça aussi qu'on aime beaucoup travailler ensemble.
Prince les adorait, il était allé les applaudir en concert à Minneapolis. Beyoncé les a invités sur son album Lemonade, elle s'appelle IBI. Leur album H vient de sortir partout dans le monde, elles démarreront une tournée française en mars.
RTL Matin,
laissez-vous tenter
avec Yves Calvin.
Nous allons donc passer à l'actualité de la musique classique. Charlotte Latour, bonjour.
Bonjour.
Vous avez rencontré un très grand pianiste, hein, le Turc Fazil Say. Son album des Nocturnes de Chopin vous a emballé.
Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas pris autant de plaisir à écouter Frédéric Chopin. Fazil Say joue 15 de ses 21 nocturnes, composées entre 1830 et 1846, dans une ambiance poétique et feutrée du velours. Se souvient avoir écouté Chopin vers 6-7 ans, mais il a dû attendre d'avoir 11-12 ans pour pouvoir le jouer. Et oui, parce que jouer Chopin avec des toutes petites mains, ça n'est pas possible techniquement. Et puis ensuite, il a fallu du temps, beaucoup de temps de maturité.
I was not playing 25 years Chopin.
Je n'ai pas joué Chopin pendant 25 ans. Je me disais qu'il fallait que je puise au fond de moi pour trouver ma patte, quelque chose de personnel pour ne pas jouer comme d'autres l'ont fait avant moi, comme si c'était une de mes compositions. Alors j'ai beaucoup attendu pour me sentir prêt. Parfois je jouais un concerto, un impromptu, une balade, mais aujourd'hui je pense avoir trouvé le son juste, le bon langage, la bonne mélancolie. J'arrive à faire chanter le piano et pour moi ces nocturnes sont les plus belles pièces pour piano.
Alors c'est inévitable de parler de mélancolie quand on aborde Chopin. Lui, le Polonais exilé à Paris à 19 ans, nostalgique de son pays, tuberculeux, redoutant une mort jeune. J'ai demandé à Fazil Say si lui aussi était un mélancolique.
Je vis dans une période qui n'a rien à voir 200 ans plus tard. Et je viens d'un pays que Chopin sûrement n'osait même pas imaginer. La Turquie, ses villes, la musique, le folklore, tout est différent entre sa vie et la mienne. La situation politique aussi, donc. Oui, je ressens de la souffrance, de la mélancolie, mais d'une autre façon.
Alors, il évoque la politique. Dites-moi, Fazil Say, de sérieux démêlés avec la justice de son pays, il en est où aujourd'hui ?
Alors, il a été en procès, oui, à partir de 2013 et pendant 4 ans pour avoir critiqué le régime au pouvoir. Mais il a fini par gagner et vit aujourd'hui à Istanbul. C'est un petit peu un acte de résistance pour cet artiste qui est extrêmement attaché à son pays. Il a d'ailleurs composé des œuvres hommage à la Turquie somptueuses, car Fazil Say est pianiste et compositeur et sa créativité ne faiblit pas. Écoutez.
Je suis en train de composer ma 4e symphonie, mon tout premier opéra arrive bientôt, un concerto pour percussion aussi, et une nouvelle pièce pour piano. Donc il y a pas mal de boulot d'ici 2018, 2019 et même 2020.
J'aimerais vous passer tout l'album, hein, tellement il est réussi. Alors, le casse-tête quand on apprend le piano, c'est l'utilisation des pédales. Notre pianiste en joue à merveille pour apporter une résonance, une générosité dans son interprétation. Aujourd'hui, on joue souvent sur des pianos surpuissants qui peuvent remplir de grandes salles. Et c'est à tenter de revenir à un son un petit peu plus retenu, mais très chantant, comme à l'époque de Chopin. Chaque nocturne est plein de poésie et on y entend un Fazil Say au jeu délicat et caressant. Cet album Chopin est paru chez Erato. Et dans la même maison, chez Erato toujours, vient de paraître un autre disque avec le musicien turc au piano et la délicieuse mezzo-soprano Marianne Krebassa pour un programme de mélodies françaises. Voilà une chanson triste, un air d'Henri Duparc.
Merci beaucoup Charlotte Latour. Il est 9h30, nous vous souhaitons une excellente journée à l'écoute d'RTL et ça commence tout de suite avec Julien Courbet.
Comment allez-vous Yves ?
On ne peut mieux.
N'avez-vous pas eu trop froid ce matin ?
Non pas.
J'ai pensé à vous, parce que moi quand j'ai vu le froid qu'il faisait là tout à l'heure, à 9h30, je me suis dit le Yves qui est parti tout à l'heure, là, 4h du matin,
oh
scooter et des stalactites dans les narines, oui. Le pauvre il a dû... J'étais affolé, j'en ai pas dormi.
J'aime bien la fraîche moi, ça ne me dérange pas.
Eh bien tant mieux, passez une bonne journée.
Bonne journée à vous.
Vous écoutez RTL.